Bonjour Catherine, bonjour à tous.
France Culture, la caravane de l'élection présidentielle.
Et une élection sous état d'urgence. Dans un peu plus de 3 semaines, nous voterons pour choisir notre futur président de la République dans un climat tout particulier. Une France sous la menace terroriste. C'est justement le sujet de notre 5e et dernière étape. La caravane de la présidentielle s'est arrêtée à Montpellier ce matin pour parler sécurité et terrorisme. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour Amélie.
Pour ce choix de la rédaction, vous êtes allé dans le département voisin à Nîmes, particulièrement concerné par les départs en Syrie. Des hommes jeunes, des ados même, le plus souvent, et de plus en plus de filles se radicalisent et partent faire le djihad. Antoine, vous avez pu rencontrer Myriam, une mère dont le fils de 21 ans est mort en Syrie.
Et c'est par un simple coup de fil que Myriam a appris la mort de son fils en juin 2015. Il était parti 6 mois auparavant en Syrie. Myriam, dont le prénom a été modifié ainsi que la voix, se souvient de la dernière communication avec son fils par Skype 2 jours avant sa mort.
On a parlé un petit peu. Elle m'a dit demain, je ne serai pas là. Ça veut dire qu'elle va au combat. On a pleuré et tout, et j'ai un coup de téléphone comme quoi il est tombé martyr.
Qui vous a appelé ?
C'est ses copains qui sont là-bas. Il y en a qui sont toujours là-bas.
Myriam n'aurait jamais pu imaginer que son fils quitte ainsi la France pour un pays en guerre, et pourtant elle avait bien remarqué des changements quelques mois avant son départ.
À la maison, il mange plus avec nous, il regarde plus la télé. Il est un peu bizarre, il prie sans arrêt. Chaque fois que je rentre à la porte, je trouve mon fils qui fait sa prière. J'ai dit peut-être il est amoureux, peut-être il a des soucis comme ça. J'ai pas pensé qu'il va partir à la Syrie.
Les questions se bousculent dans la tête de Myriam, presque 2 ans après la mort de son fils. Elle continue à regarder sur son smartphone les photos du passé, celles d'avant le départ. On y voit un jeune homme souriant au look très occidental et celle d'après qu'il a envoyée de Syrie. Tenue militaire ou religieuse, barbe, cheveux longs et sandales. Myriam trouve un peu de réconfort au sein d'une association de quartier. Elle a noué une solide amitié avec sa présidente, Monique, qui connaît bien ce phénomène de radicalisation.
C'est loin d'être le seul cas. Je crois qu'on en est à 6 décès sur les quartiers de ce côté-ci de la ville.
Ça veut dire qu'il y a des recruteurs dans le quartier ?
Bien sûr qu'il y a eu des recruteurs dans les quartiers. On les retrouve dans les rues, devant les mosquées.
Vous les voyez physiquement ?
On les voyait physiquement. Mais à ce moment-là, on ne savait pas. Ils prêchaient, pourquoi pas ? Hein, mais on ne savait pas la dimension que ça allait prendre. Maintenant, ils sont plus invisibles, depuis le Bataclan.
Et les prêcheurs de haine privilégient maintenant les réseaux sociaux, Antoine.
Et ils demandent aux jeunes d'être plus discrets pour ne pas éveiller l'attention de leurs proches. Cette radicalisation dissimulée est aussi beaucoup plus rapide. C'est ce que constate maître Khadija Aoudia. Elle est avocate au barreau de Nîmes, spécialisée en droit pénal.
Cela se fait en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois. Alors que pour les radicalisations que je dirais entre guillemets classiques, celles que nous avons connues avant l'année 2015, il y avait tout un processus suffisamment long dans le temps pour qu'il y ait une certaine forme de vigilance de la part des parents.
Et c'est au nom d'une certaine vision de l'islam que ces jeunes partent faire le djihad. Une vision fermement contestée par les responsables musulmans locaux, ce qui n'empêche pas l'un d'eux de se montrer critique à l'égard de certains imams de Nîmes. Hossine Drouiche est le président du conseil des imams du Gard.
Un comité religieux peut mettre n'importe qui comme un imam au sein d'un quartier de 30 000 habitants, c'est-à-dire des milliers de jeunes qui viennent demander des réponses d'un imam incompétent. Pour moi, ça c'est inacceptable. Il faut des imams qui parlent français, mais pas seulement le français, qui maîtrisent la théologie musulmane, mais pas seulement la théologie musulmane, qui maîtrise aussi la société française.
Selon Hossine Drouiche, il faut des imams modernes et érudits qui apportent des réponses claires à ces jeunes tentés par la radicalisation.
Le choix de la rédaction signé ce matin, Antoine Maret. Merci beaucoup Antoine. Un reportage à Nîmes à réécouter sur franceculture.fr. Je vous donne rendez-vous dans le journal de 8h pour notre ultime épisode de la caravane de la présidentielle en direct ce matin de Montpellier. Pour leur retour à Paris.